Bonjour, bienvenue sur France Bleu Gironde pour 100% UBB, l'émission quotidienne du rugby. Alors aujourd'hui, il sera question du bébé, mais pas que, hein, parce qu'on risque de parler pas mal des internationaux avec notre invité du jour, qui est journaliste au journal L'Équipe et qui sort aujourd'hui un livre qui ressemble presque à un cahier de bord de l'équipe de France. Son nom, c'est Richard Esco. L'ouvrage s'appelle Côté ouvert 2016-2023, chronique d'un sacre reporté aux éditions Passiflore, une maison d'édition de Dax dans les Landes. Et comme le titre le laisse deviner, il est question de l'équipe de France et de son échec au Mondial. Pour rappel, une élimination d'un point face à l'Afrique du Sud, encore une fois championne du monde. On va ouvrir ce bouquin donc dans la prochaine demi-heure avec également Joël Martin qui sera avec nous sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde qui est la radio officielle de l'UBB aussi, je vous le rappelle. Donc aujourd'hui
100% UBB, Julien Dejon.
Richard Lescott avec nous, bonjour Richard, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Journaliste donc du journal L'Équipe. Joël Martin est là aussi avec nous. Bonsoir Joël.
Bonsoir Julien.
Vice-président de la Ligue des arbitres, responsable des arbitres aussi du côté de chez nous en Gironde. Côté ouvert donc, je le disais, côté ouvert 2016-2023, chronique d'un sacre reporté donc sorti aujourd'hui. Ce livre signé Richard Esco. Alors tiens Richard, comment il se serait appelé ce livre si on avait gagné la Coupe du Monde ?
Chronique d'un sacre annoncé.
Oh, voilà. Et vous savez quoi, c'est ce que j'avais écrit sur ma fiche en plus. Tiens, ça doit être ça. Ça peut être que ça. Effectivement, bon bah du coup c'est raté.
Ah oui, c'est
reporté. C'est raté, on n'a pas eu le temps, c'est reporté. Bon, j'imagine déçu forcément comme tout le monde, Richard.
Oui, déçu, frustré. Et puis il y a une part d'incompréhension parce que on avait un staff magnifique, pléthorique. On avait une équipe avec l'un des meilleurs joueurs du monde. On avait un jeu qui normalement devait nous permettre d'aller loin. Tous les clubs, y compris l'UBB, avaient permis à leurs internationaux de se libérer pour l'équipe de France. Et puis là, on est tombé contre plus fort, contre plus malin, avec une équipe qui avait une dimension psychologique peut-être et tactique supérieure à celle de l'équipe de France en quart de finale. Je veux parler des champions du monde, les Springboks.
Voilà, tout simplement. Alors, avant de revenir un peu sur cette équipe de France, moi, j'aimerais savoir comment est né ce livre qui est une sorte un petit peu de journal de bord, hein, pratiquement.
Dans le mot chronique, on a chronos, on a cette temporalité, on a ce temps qui s'écoule et qu'il faut arrêter. Et en 2011, le journal L'Équipe m'avait demandé, alors pas simplement à moi, à tout un tas de grands reporters, de journalistes, de créer des blogs comme ça, sport par sport. Celui du rugby avait bien marché, mais bon, en 2016, L'Équipe a arrêté cette formule-là sur le site. Et en fait, c'était créé autour de ce blog une communauté, comme un village ovale. Et les blogueurs m'avaient dit non, il faut qu'on continue, c'est trop bien, c'est trop sympa, parce que mon blog avait cet avantage, c'est que je répondais aux questions qui étaient posées par les blogueurs. C'est pas simplement faire une chronique, c'est aussi créer du lien. Et donc on a trouvé un support, et puis l'un d'entre eux, un Bordelais d'ailleurs, Christophe Bedou, qui doit nous écouter, son surnom c'est Le Tioff, m'a dit mais il faudrait que ça soit quand même tout ça posé dans un livre, qu'on puisse en avoir un souvenir, que ça puisse marquer. Et c'est ce qui s'est passé avec les éditions Passiflore.
Et vous avez passé c'est du plaisir aussi, du coup c'est pour ça que vous avez gardé j'imagine ces chroniques, c'était vraiment aller du partage, du lien et du plaisir aussi pour vous quelque part quand même.
Bah oui, vous savez, quand on sait qu'il y a un village ovale qui s'appelle Côté Ouvert et que toutes les semaines, une chronique est attendue parce qu'elle permet de rebondir sur l'actualité et parfois de se décaler, faire ce petit pas de côté, on suivait pas toujours l'actualité, on allait parfois ailleurs, et que vous avez plus de 100, 200, 300, 400 commentaires qui restent avec des membres de cette communauté qui vous appellent, avec lesquels on échange, et puis quand je descendais à Bordeaux ou quand je descendais à La Rochelle ou à Clermont ou ailleurs, je prenais contact avec eux, on se voyait, on prenait un café. Et puis surtout, tous les ans, on louait un gîte. Alors ça a été à Trégnac et après à Userche. Quelque chose d'épicentral, quoi, voilà, à équidistance. Et on se réunissait pendant un week-end et on invitait Pierre Villepreux. On a même invité Joël Judge, qui, à l'époque, nous a expliqué quelles seraient les prochaines règles. Par exemple, le 50-22, on en a eu la primeur quasiment 6 mois avant.
Là, j'ai Joël Martin qui écoute et qui est jaloux. Il n'a pas été convié, lui.
il le sera bientôt.
Je connais très bien Joël.
Joël, on ne vous oublie pas, c'est promis. J'aurai quelques questions à vous poser.
Non, pas de souci.
Dans un instant, mais j'aimerais savoir peut-être, Richard, pourquoi 2016-2023 et pas 2016-2019, par exemple, lors du dernier mondial, ou 2019-2023, ce laps de temps entre deux mondiales.
Alors, il m'est paru intéressant de démarrer au moment où le blog avait changé de support, donc avait quitté l'équipe pour être sur un support indépendant, donc et avoir un ton peut-être un peu plus indépendant. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et puis 2016, parce que après le fiasco monumental du quart de finale 2015 contre les All Blacks, rappelez-vous, hein, plus de 60 points encaissés à Cardiff, les états généraux du rugby français derrière, je m'étais dit, ça serait pas mal de regarder ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, dans quelle direction le 15 de France est allé, quels sont les temps forts, les temps faibles, quelles sont les questions qu'on s'est posées. Et on trouve à travers justement ces 8 saisons, 2016-2023, jusqu'à, moi je m'attendais à un sacre, hein, bien sûr, il n'a pas eu lieu, mais c'est intéressant avec le recul. Bah, le livre est sorti aujourd'hui, je l'ai eu entre les mains ce matin, je regardais moi-même le déroulé, et on s'aperçoit que bah, finalement on a pas mal de errements, d'interrogations, d'hésitations et de moments de panique. Et si on a été éliminé en quart de finale, je pense que c'est pas le fait du hasard.
On va revenir justement sur ces moments de panique, comme vous dites. En tout cas, c'est vrai que durant ce laps de temps, vous l'avez dit aussi, le rugby, vous l'avez vu évoluer. Vous le dites d'ailleurs en préambule, hein, c'est le sport qui a été le plus modifié depuis son origine. Et c'est vrai que bah, les règles changent régulièrement, Richard. Et d'ailleurs, on aura le point de vue de Joël, du coup, qui est de la Ligue des arbitres juste après.
Ah ben bien sûr, Joël. Et puis je suis ravi qu'il y ait un arbitre, parce que moi, mon père a été arbitre aussi après avoir été joueur. J'ai beaucoup de respect pour l'arbitrage. Le meilleur ami de mon père, c'était Georges Domerck, donc ça doit vous dire quelque chose, hein, l'arbitre du match Barbarians All Blacks 73. J'ai toujours côtoyé les arbitres, j'ai un profond respect, et je pense que le joueur de rugby, s'il ne respecte pas l'arbitrage, ne sait pas à quoi il joue. Le rugby, c'est d'abord le respect de la règle, et quand j'entends parler d'injustice, moi, ça m'insupporte, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'injustice, il y a simplement un homme, qui est le directeur de jeu, qui arbitre un match, et on doit de le respecter, et j'ai trouvé absolument lamentable, y compris le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, s'en prenne à l'arbitre à la fin du match pour trouver un bouc émissaire. Je pense que Joël, vous êtes confronté à ça régulièrement. L'arbitre fait partie du jeu, on doit le respecter. Et ce qui s'est passé à l'issue du quart de finale contre les Springboks doit vous faire un peu de peine.
Joël ?
Ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je dirais que, d'abord, je ne suis pas vice-président de la Ligue, je suis vice-président de l'Union nationale des arbitres du rugby.
Ah, c'est l'Union nationale.
Je ne suis plus un arbitre, un exercice. Voilà. Et je suis. Et il parlait de Georges Domerck, j'ai un grand souvenir pour moi, puisque je lui ai fait une touche sur un match Agen contre Nice. Vous voyez, il y a déjà un moment de ça. Et pour moi, c'était le plus grand arbitre, le roi de l'avantage, on l'appelait Georges Domerck. Voilà, c'était une grande époque avec Georges. Oui. Mais c'est vrai que nous, ça nous a. Moi, je suis resté un peu frustré sur cette Coupe du Monde. Pour moi, cette Coupe du Monde a été gâchée. Tout le monde dit qu'elle a été gâchée par arbitrage, mais moi, je trouve que c'est plutôt les réactions à propos d'arbitrage qui ont tout gâché. Voilà. Bien sûr qu'il y a des mauvaises décisions, des très mauvaises parfois, il est vrai, et c'est certain, hein. Mais bien sûr qu'il va falloir uniformiser les styles d'arbitrage. Bien sûr aussi, il va falloir qu'on ait des réflexions qui doivent être menées autour des règles pour favoriser l'attaque, ou au moins clarifier toutes ces zones grises qu'on a vues avec ces plaquages hauts, ouais, comme vous l'avez pu voir, et ce bunker. Et je voudrais juste en parler un petit peu de ce bunker après. Mais il y a vraiment temps qu'on prenne un peu de recul et que l'on tempère tous ces propos qu'il y a eu, l'image de notre société et même de l'actualité où tout est toujours blanc ou noir à l'extrême, avec des réactions extrêmes, et ça c'est affreux pour moi,
Joël,
ce qu'on a vécu à cette Coupe du Monde.
Est-ce qu'on peut aussi comprendre quelque part la frustration aussi de ces joueurs, et moi en tant que supporter aussi, parce que les erreurs, on est bien d'accord, on peut tous en faire, attention, hein, loin, je suis pas l'homme parfait, personne n'est parfait, mais aujourd'hui on a tellement vendu aussi quelque part la vidéo, on a tellement vendu tant de choses, le bunker effectivement aussi qui est là pour essayer de prendre les décisions plus sereinement entre guillemets. Mais je me dis, quelque part, il y a eu des ratés. Alors c'est bien que les joueurs aussi se posent la question, mais est-ce que l'arbitrage aussi ne doit pas se poser la question de ce qui s'est passé pendant ce mondial? Parce que des ratés, il y en a eu, et ça, voilà, ça peut arriver. Mais c'est bien aussi de se remettre un peu en question de temps en temps, non Joël?
Non, mais tout à fait. Mais cette Coupe du Monde, quand je me rappelle la Coupe du Monde au Japon, où on a eu une Coupe du Monde où l'arbitrage n'a jamais été mis en question, il n'y a eu aucun doute. Quand Jérôme Garcès avait fait la finale, il n'y a jamais eu aucun doute. Cette Coupe du Monde a été basée sur beaucoup de dilemmes, dont le bunker. Et le bunker, moi je pense que ce bunker, on nous l'a mis au dernier moment aux arbitres. Hein, il a été mis au dernier moment aux arbitres. Il n'avait jamais testé pratiquement là-dessus. Et ce qui fait que ce bunker a desservi certaines situations. Et combien de temps de jeu le bunker a fait gagner sur cette Coupe du Monde et par rapport à un appel vidéo classique? Moi, je dois reconnaître
raison,
que...
Joël.
Voilà.
L'arbitre, ce qui est drôle aussi sur le bunker, c'est que c'est une idée néo-zélandaise. Et je trouve que ça fait un peu arroseur arrosé parce que ce sont, vous savez, les Néo-Zélandais ont énormément de poids au World Rugby, hein. La France en a plus, mais la Nouvelle-Zélande en a beaucoup. Ils ont voulu ce bunker au dernier moment. Les arbitres n'en voulaient pas. Ça a été imposé. Et la raison, c'était, mais on voudrait pas que la finale soit gâchée par un carton rouge. Et on a bien vu que ça a servi strictement à rien, à part, vous avez raison, Joël, desservir les arbitres, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus d'autorité sur le terrain.
Joël, tout à fait, parce que une décision, la décision de terrain avant, elle se discutait avec l'arbitre une équipe de quatre. Et les téléspectateurs pouvaient suivre le cheminement. Ce qu'on a en top 14 actuellement, on entend la discussion de l'arbitre, on entend sa discussion avec la vidéo, et on entend sa discussion avec les JT. Mais là, aucune discussion. Et ça a été très compliqué, autant pour l'arbitre que pour les supporters, mais aussi pour les joueurs, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, quoi.
Absolument. On l'a vu. Mais vous savez, ce qui est terrible, Joël et Julien, ce qui est terrible, c'est que nous, les Français, on se trouve toujours un bouc émissaire et c'est toujours l'arbitre. Regardez, en 91, c'était la faute de l'arbitre néo-zélandais contre les Anglais. En 95, c'est de la faute de l'arbitre gallois contre l'Afrique du Sud. Et là, on se dit, c'est de la faute de l'arbitre néo-zélandais contre l'Afrique du Sud. Il y a un moment où il va falloir que le rugby français se pose les vraies questions. L'arbitre, c'est un phénomène de jeu. Est-ce qu'on se pose autant de questions sur les joueurs français qui ont loupé le ballon sous les chandelles sud-africaines en quart de finale? Parce qu'il est là, le vrai problème.
Est-ce que moi, ce que oui, juste Joël, si je peux me permettre, si on regarde sur un match, il y a à peu près 40 fautes sifflées sur un match. C'est probablement plus de 200 fautes qui se produisent sur un match. Bon, mais en tout cas, si on prend le match contre l'Afrique du Sud, ça aurait pu basculer. Penaud ou Makalou aurait pu prendre aussi des cartons jaunes lors de ce match. L'arbitre coupable. Et le coupable idéal, de suite, alors ça a été l'arbitre qui était responsable. Alors que nous, on a manqué des essais sur ce match, avec de la vitesse. Sûr. Et on a été coupable, je dis coupable, d'en prendre 4 en retour. C'est et qui ne sont pas entachés d'aucune faute. Attention.
Richard et Joël, on se retrouve dans un instant. Vous restez avec nous dans 100% UBB. Richard, est-ce qu'on va parler? On va continuer à parcourir un petit peu ce livre que vous venez de sortir, qui sort aujourd'hui, qui est disponible d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, qui s'appelle Côté ouvert 2016-2023, chronique d'un sacre reporté. Ce qu'on a perdu en quart de finale, c'était chronique d'un sacre annoncé en cas de victoire. En tout cas, ce joli bouquin aux éditions Passiflore est sorti aujourd'hui. Joël Martin est là également, vice-président de l'Union Nationale des Arbitres. À tout de suite. 100% UBB jusqu'à 18h30 avec aujourd'hui notre invité Richard Esco, journaliste au journal L'Équipe, qui sort ce livre aujourd'hui, Côté ouvert 2016-2023, chronique d'un sacre reporté aux éditions Passiflore. Joël Martin est là également, vice-président de l'Union Nationale des Arbitres. Richard, on va essayer de parcourir un petit peu votre livre, un petit peu. Alors on va pas détailler toutes les pages du livre, il y a pratiquement 200 pages, c'est un joli ouvrage que vous nous proposez là. En tout cas, on a l'impression de démarrer un petit peu aussi une petite leçon d'histoire dans le bouquin, parce que 2016-2023, mais pas que. On a par exemple, vous revenez sur le 40 ans d'un grand chelem en 1977. Vous revenez sur l'histoire de ces 15 mecs qui ont tout écrasé sur leur passage.
Voilà, donc bien sûr, on suit l'équipe de France dans ce livre Côté ouvert, mais on a aussi bien sûr des événements, des anecdotes. Voilà, la journée que j'ai passée avec les grands chelemards de 1977 autour de Jean-Pierre Bastia, Jean-Pierre Rive et d'autres. Il y a aussi un portrait de Michel Serres, le philosophe, de Pierre Soulages qui nous a quittés. Quelques histoires aussi sur le rugby amateur, des sortes de nouvelles. Et c'est vrai que moi j'aime bien cette notion de chronique, parce que on arrête le temps, on le fige, et finalement en relisant, on s'aperçoit que on a un continuum et que ce qui nous arrive en fait n'est jamais le fait du hasard, ni le fait du destin, c'est qu'il y a quelque chose qui s'écrit petit à petit au fil du temps et qui nous emmène au succès ou à l'échec. Et là, malheureusement, c'était l'échec.
Il y a, on croise quelques personnages également dans les livres. On peut retrouver notamment aussi l'hommage de Thomas Castagnède à Christophe Dominici, qui s'est suicidé fin 2020. Il avait 48 ans. C'est un témoignage fort et sincère aussi, et c'est lui qui avait choisi votre Côté ouvert pour ce bel hommage. Vous vous souvenez comment ça s'est passé?
Bah oui, parce qu'avec Thomas, on est, on va dire qu'on est amis maintenant. Voilà, j'ai suivi sa carrière, on a sympathisé. C'est quelqu'un qui adore l'art, comme moi, qui est très féru de peinture. Et c'est vrai qu'on avait visité, par exemple, ensemble, le Tate Museum à Londres quand il jouait pour les Saracens. Et il fait partie des lecteurs assidus de Côté Ouvert. Et quand Demi est mort, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Richard, j'aimerais lui rendre hommage, c'était un ami, est-ce que je peux le faire sur ton blog? Et bien sûr, je lui dis, le blog, il est ouvert. De la même façon qu'Olivier Mann, quand les caméras montraient ce qui se passait dans le vestiaire, la remise des maillots, les discours d'avant-match, avait été horrifié, il m'avait demandé s'il pouvait livrer un texte à Côté Ouvert. Moi, je suis très fier que ces joueurs-là, puis il y a un philosophe aussi, Christophe Schaeffer, qui a rendu hommage à quelques joueurs de rugby. Je suis très fier que des philosophes, des anciens joueurs prennent Côté Ouvert pour transmettre des messages, parce que transmettre, c'est ce qu'on fait, vous à la radio, moi dans la presse écrite, on n'est que des passeurs finalement.
Alors on le disait, il y a eu cette Coupe du Monde 2019 au Japon, elle est également présente dans ce Côté Ouvert, et j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe Richard, mais vous n'êtes pas très tendre avec cette équipe-là de 2019.
Non, je suis pas très tendre parce que c'est une équipe qui avait les moyens d'aller très loin et ce quart de finale perdu, pour moi, il est pas perdu sur le coup de coude de Vahamaina en début de deuxième mi-temps. Il est perdu sur l'approche stratégique. Et ce qui était inquiétant et qu'on peut voir déjà, c'est qu'on avait Cyril Baye, Charles Olivon, Antoine Dupont, Gaël Ficou qui étaient déjà présents dans cette équipe. Et on voit bien qu'entre 2009 et 2023, la culture tactique et stratégique du 15 de France n'a pas vraiment progressé. On a été une nouvelle fois battu de peu. Rappelez-vous, au Japon, c'était dans les 5 dernières minutes, alors que l'équipe de France dominait et menait, elle n'avait pas été capable de maintenir son avance au score et elle s'était fait manger en toute dernière minute. Et là, ça a été un petit peu pareil contre l'Afrique du Sud. Et je suis un peu en colère parce que on a les joueurs, on a le staff, on a les techniciens, mais il nous manque toujours quelque chose pour franchir les derniers caps. Et là, franchement, c'est même pas le dernier cap, c'est les derniers caps. Rendez-vous compte, ça fait 3 éditions consécutives que l'équipe de France est éliminée en quart de finale. Ça fait quand même pas de nous une grande nation de rugby.
Bon, Joël, d'accord. Sur ce point, est-ce que vous vous souvenez, vous, de... Parce que j'avoue, je l'ai un petit peu mis de côté, cette Coupe du Monde 2019. J'ai préféré aussi vite l'oublier. Comme ça, là, je pense que j'ai vite l'oublié aussi. Mais est-ce que vous vous souvenez, vous, de la Coupe du Monde 2019?
Ah oui, tout à fait. Puis, je me souviens, d'abord, on a vu de très bons matchs sur cette Coupe du Monde, on avait de très belles confrontations, on a découvert cette équipe du Japon aussi qui nous a fait vibrer sur cette Coupe du Monde. Et puis aussi, moi aussi, j'ai vibré parce qu'en tant qu'arbitre, on était représenté par Pascal Gahuzer, on avait Mathieu Reynal, on avait Romain Poite, on avait Alexandre Ruiz qui faisait la touche aussi, nous avions 5 arbitres. Là, cette fois-ci, nous avions que Mathieu Reynal, qui faisait l'arbitre de champ et un seul arbitre de touche. C'est vrai que pour nous, la représentativité de l'arbitrage français au Japon, pour nous, ça a été le graal de tous les graals, puisque aussi l'équipe de France n'a pas été à la hauteur. Je dirais que l'équipe des arbitres français ont été à la hauteur, en plus avec un Jérôme Garcès qui fait la finale. Voilà,
c'est ça. Et là, vous avez raison, Joël, parce que en plus, Mathieu Reynal a été fortement critiqué par le pool World Rugby. Hein. Vous savez que tous les matchs sont regardés par une dizaine de personnes autour de Joël Judge. C'est vrai que l'arbitrage qu'il a eu l'a complètement éliminé de la phase finale. Et c'est vrai que l'arbitrage français... Alors moi, je suis inquiet, Joël, parce que je me dis... Quand le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, pour lequel j'avais la plus grande estime, se permet de critiquer l'arbitre, alors que son équipe a plutôt mal joué... Premier mot en conférence de presse, critique de l'arbitre, il n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. L'équipe de France non plus.
Mais on lui pose la question aussi. On lui pose la question.
Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas que ces critiques contre l'arbitrage soient d'un effet terrible tous les dimanches dans les séries régionales et en fédérales?
Ben c'est sûr, parce que moi je suis sur les séries régionales tous les week-ends. J'y serai dimanche sur un petit stade, mais avec une équipe amateur sur un terrain de Cesta sur la Gironde. Mais heureusement que dans le secteur amateur, nous avons des gens aussi qui savent faire la part des choses. Mais c'est vrai que moi, où je me soucie aussi le plus, c'est dans le recrutement, parce que ça va pas être facile, nous, de recruter, parce qu'on a besoin d'arbitres, et de recruter dans l'état d'esprit qu'il y a, et avoir ça. Mais moi, ce qui m'a le plus aussi... fait mal, c'est tous ces commentaires qui sont devenus très virulents, hein, mais on n'a plus que la fonction d'arbitre. Mais maintenant, c'est l'homme qu'on attaque. Et c'est là où c'est grave. J'ai vu cet après-midi que Wentz Barnes arrête tout. Il a arrêté parce qu'il aurait pu encore a pu continuer, même s'il ne faisait plus la Coupe du Monde, il aurait pu encore continuer. Mais Wentz Barnes a décidé d'arrêter sa carrière d'arbitre. Et il a fait quand même pas une mauvaise Coupe du Monde, Wentz Barnes.
Vous savez pourquoi moi, Joël, trouvais il arrête sa carrière d'arbitre? Vous savez pourquoi
mais non,
il arrête?
Mais je pense
qu'il a été menacé de mort, lui et sa famille.
Oui,